10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et vous le savez, une heure pour parler d'islam, c'est le samedi entre 10h et 11h sur Beurre FM. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. L'imam Abdelali Mamoun est avec nous. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Comment allez-vous aujourd'hui?
Alhamdulillah, très bien, on démarre une belle année, je suis content. Il fait beau, voilà, c'est superbe. Bon. Philippe est...
Je suis calme aujourd'hui.
Et voilà, calme.
Mais ça va pas durer.
C'est étonnant.
Ça va pas durer.
C'est étonnant.
On attend la pub.
Inch'Allah.
On attend la pub pour vous faire les annonces.
Là, je flippe. Là.
Pour vous faire les annonces.
J'ai accroché un tendeur derrière moi. Dès que ça va pas, je lâche.
Un tendeur. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ça.
Ouais, c'est parce que j'en ai un. J'en ai récupéré un.
C'est ce qu'on mettait sur les vélos pour accrocher les choses, des tendeurs.
Tout à fait.
Ça
ouais. Les commissions dans
ça,
le porte-bagages.
Sur le porte-bagages,
ouais. Tout à fait. C'est drôle, il n'y a plus ça maintenant.
Non. Bon. Ouais. On va parler de la vertu du jour, Imam Abdelali. Et cette vertu que vous avez choisi de développer avec nous, c'est la loyauté.
Oui. Il est clair que la notion de Wafa en arabe, c'est même un prénom féminin. On trouve souvent de beaucoup de femmes s'appeler Wafa, et bien tout simplement qui se traduit par la loyauté. Dans le Coran, d'abord, Dieu parle de loyauté. Il dit « Wa'oufu bil'ahd, innal ahda kana mas'oula » « Soyez loyaux avec vos engagements, car l'engagement sera examiné, interrogé, etc. » Et Dieu, dans le Coran aussi, il dit « وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ » Respectez vos engagements avec loyauté vis-à-vis de Dieu quand vous avez, quand vous êtes engagé dans quelque chose, et ne l'annulez pas, n'annulez pas surtout vos sermons, donc ne commettez pas de parjures après qu'elles aient été confirmées, alors que vous avez mis Dieu comme garant, puisque quand on dit Wallah sur Dieu, sur le Coran, qui est la parole de Dieu. Hein. Souvent, on jure sur le Coran, on jure sur Dieu. Tout ça, c'est autorisé, il n'y a aucun problème, mais il faut respecter quand on jure. Il faut que ça soit vrai. Il faut
mais pas qu'est-ce qu'on dit quand on dit Wallah?
Wallah, c'est je jure sur Dieu.
Le wa,
ça veut dire qasam. Mmh. Jurer. Par, ça veut dire par. Par Dieu.
D'accord.
Hein. Wallahi al-azim, on dit Wallahi al-azim. Donc c'est jurer sur Dieu, l'immense ou le grand.
D'accord.
Donc à partir de là, ça aussi, ça fait partie de la loyauté de respecter tout simplement ses sermons, sa parole, ses engagements que l'on donne aux gens qui nous entourent. Car c'est très important pour le vivre ensemble, pour pouvoir être en harmonie avec les gens qui nous entourent, d'être loyaux dans tous les aspects de la vie, et voilà, parce que les gens attendent de toi une certaine fidélité, ils attendent de toi que tu sois à la hauteur de ta parole et des engagements que tu donnes aux autres, comme tu voudrais qu'on la respecte pour toi. C'est réciproque. Comporte-toi avec les autres comme tu voudrais qu'on se comporte avec toi-même. Donc c'est ça qui est fondamental quand on parle de vertu relationnelle, de akhlaq, de mu'amalat, de relationnel, hein, de tout d'abord respecter et d'être loyal dans ses engagements. Alors il y en a beaucoup des formes
de loyauté.
Voilà.
Oui. Il y a plusieurs formes de loyauté, Imam Abdelali.
Oui, tout à fait. Il y a, par exemple, on va citer...
Alors, les engagements, par exemple. Respecter ses engagements.
Tout à fait. Quand on donne sa parole, par exemple, quand on est salarié, et qu'on signe un contrat de travail, par exemple, et qu'on dit, voilà, moi, je vais venir de telle heure à telle heure, et je vais m'engager à faire telle mission, tel travail, eh bien, il faut le respecter, tout simplement.
Mais ça, c'est pas de la loyauté. C'est respecter un contrat.
Mais c'est être loyal avec la parole que l'on a donnée et la signature du contrat qu'on a signé. C'est une forme de loyauté, bien sûr, Philippe, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a aussi tout simplement la loyauté que l'on va...
Oui, alors il y a la loyauté des engagements, il y a la loyauté des accords.
Il y a la loyauté des accords, c'est justement le contrat que je viens d'évoquer. Quand tu as un associé, quand tu as un partenaire, quand tu as un fournisseur, quand tu as un client à qui tu t'engages de lui envoyer, de lui faire le travail que auquel tu t'es engagé, tout simplement, la loyauté, c'est tout simplement respecter cet engagement. C'est une forme de loyauté. Tu vas volontairement, tu lui dis, voilà, moi, en 2 mois, le travail est fait. Et tu sais, dans ta tête, tu vas jamais respecter. Ça, c'est une trahison. Déjà, tu commences par une intention qui est malsaine, puisqu'elle, tu sais très bien que tu vas trahir ton engagement. Par contre, si effectivement tu t'engages, mais que à cause des aléas, à cause des choses qui sont autour de toi, tu n'as pas réussi à respecter tes engagements, bah écoute, tant pis. À ce moment-là, tu en subiras pourquoi pas les conséquences, pourquoi pas, moi je sais pas, moi des pénalités, etc. Donc comme on voudrait pour soi-même que les gens se comportent, c'est simple. Toi, tu veux, par exemple, quitter ton appartement parce que t'as demandé un entrepreneur de faire les travaux et de terminer à telle date et qu'il a pas terminé. Ça te plairait pas parce que tes calculs par rapport à tes comptes dans lequel tu voulais rentrer dans la maison et arrêter de payer un loyer à côté, etc., etc., bah, va être ajourné encore d'un mois, etc., ou 2 mois, je sais pas. Donc tout ça, c'est bien entendu très contraignant, très gênant. Ça provoque des gênes et des situations parfois difficiles à vivre. Si tous les gens se comportaient comme ça, ça serait invivable. Donc c'est fondamental que quand on donne sa parole, il faut la respecter. Il y a aussi une forme de loyauté, c'est de respecter la parole dans le sens la préserver. Quelqu'un te donne un secret, te confie quelque chose, une information confidentielle, et que toi tu vas la crier sur les toits, alors qu'il t'a bien informé. C'est entre nous, c'est confidentiel, c'est un secret, c'est voilà, et que toi tu vas le crier sur les toits ou carrément dévoiler cette information à la personne qui est concernée par cette chose-là et qui, bien entendu, va considérablement porter préjudice à celui qui t'a donné l'information. Donc déjà, il t'a dévoilé. Beaucoup de gens n'osent pas dire des choses parce qu'ils n'ont pas confiance les uns les autres. En plus, donc, ça va casser la confiance, ça va entretenir la méfiance, la retenue qui consiste au fait que les gens ne puissent pas communiquer parce qu'ils ont peur que l'information, et qu'il aille le répéter, que ça se retourne contre lui, etc. Alors que lui, son intention était noble, tout simplement de vouloir faire le bien, etc. Donc tout ça, consiste à respecter cet engagement qu'on appelle la loyauté, qui est le contraire de la trahison. La trahison, c'est al-khiyana. Le prophète a dit que c'est une des caractéristiques de l'hypocrisie. Quand on a interrogé le prophète sur les 4 caractéristiques de l'hypocrite, il a dit « Idha haddatha kadhab » quand il parle, il ment. « Wa idha wa'ada akhlaf » quand il donne une promesse, il ne la respecte pas. « Wa idha tumina khan » et quand on lui donne une amana, un dépôt, on lui dépose quelque chose, eh bien, il ne la respecte pas, il ne la protège pas, eh bien, il ne la préserve pas, il ne s'engage pas à la restituer à son propriétaire tel qu'il lui a été confié. Donc, l'objet ou la chose qui a été dépositaire, eh bien, le munafiq, l'hypocrite, lui, va itlefa, c'est-à-dire il va soit la consommer lui-même ou il va carrément la spolier, ou il va dire à la fin, à l'issue de son engagement, dire non, moi tu m'as rien confié, ou tout simplement nier tout en bloc, etc. Donc tous ces actes de trahison sont particulièrement détestables. Et c'est clair qu'il n'y a pas besoin de Coran, de révélation, pour tout simplement comprendre que c'est du mal, que c'est le mal de faire ça, que de trahir son ami à qui vous a confié sa confiance.
En plus, alors, il y a une autre forme de loyauté, c'est la fidélité.
Voilà, tout à fait, la fidélité envers sa femme, envers son conjoint, envers son ami. Ça peut être beaucoup de choses, hein. La fidélité, c'est pas que Abdelali qui a pas donné un coup de téléphone pendant l'été, pendant quelques jours.
Qui a pas envoyé des SMS pendant l'été.
Qui a pas envoyé
quelques SMS. C'est une preuve d'une infidélité. mais j'ai pardonné.
Voilà, il a pardonné, Philippe.
Mais qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui.
D'accord. C'est vrai que c'était dur pour lui de pardonner.
C'était très très dur.
Mais je te.
Bon, si j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui, encore une fois, c'est parce que ça m'a fait mal. Mais heureusement, il y avait Fodil Belamri qui était avec moi et que l'imam Youssef Hachmaoui était là pour nous soutenir. Hein. Mais on rigole, c'est vrai que la loyauté est dans la fidélité, ça c'est très 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 important, c'est fondamental.
Le vivre ensemble est au cœur du vivre ensemble. Il est au cœur du vivre ensemble. Il est au cœur de la confiance mutuelle et du respect que se doivent les gens mutuellement. S'il n'y a pas de loyauté, il y a de la trahison, forcément, les gens ne vont plus se faire confiance. Il n'y aura plus de partenariat, il n'y aura plus de complicité, il n'y aura plus d'amitié, tout simplement, il n'y aura plus d'amour. Hein, les gens vont se détester, vont se haïr, parce que tout le monde sera de principe déloyal, sera traître envers ses engagements qu'il a donné à son partenaire, que ça soit son mari, que ça soit son frère, que ça soit ses parents, que ça soit un ami, etc. Donc c'est sûr que la loyauté est essentielle dans le vivre ensemble et c'est ce qui consolide les liens que l'islam en tout cas encourage à consolider dans la société.
Alors c'est marrant parce que moi dans les définitions que vous donnez de la loyauté, moi je pensais que la loyauté, il n'y avait pas de contrat. C'est-à-dire que c'était un contrat qui était moral, mais qu'il n'y avait pas de contrat écrit. C'est-à-dire que tout ce qui est avec un contrat écrit, pour moi, ça ne relève pas du contrat moral.
Alors, un contrat n'est pas forcément écrit. Moi, ce que j'appelle un contrat, c'est à partir du moment où vous avez un consentement mutuel, tu fais ça, en contrepartie, je fais ça. Pour moi, à partir du moment où il y a une réciprocité,
moi, il est moral, le contrat.
Il peut être parfois écrit, de toute façon, ça ne change rien, qu'il soit écrit ou non. À partir du moment où l'un des deux parties ne respecte pas volontairement, sans aucune raison valable, sans qu'il y ait un aléa qui soit... Par exemple, quelqu'un, il s'engageait pendant le Covid, avant le Covid, il ne savait pas qu'il allait avoir le Covid, de faire telle chose en 6 mois. Et malheureusement, le Covid arrive, tout est bloqué, tout est interrompu. On ne peut pas parler de trahison. On parle de là de contraintes qu'il ne maîtrise pas. Toute la société a été bloquée, tout a été interrompu. C'est sûr que là, là-dessus. Mais par contre, quand il sait... qu'il pouvait, mais que par cupidité, par exemple, parce que entre temps un autre client est venu lui proposer plus d'argent. Pour un autre contrat qu'il voudrait qu'il réalise plus rapidement, et donc lui il est parti sur ce deuxième contrat et il a oublié son premier contrat auquel il s'était engagé, alors qu'il aurait dû dire non, tout simplement je ne peux pas respecter ce deuxième contrat parce que je ne pourrais pas cumuler les deux. Voilà, par exemple. Donc, ce sont effectivement des formes aussi de loyauté que de respecter ces contrats, ces engagements que l'on donne à ses partenaires avec lesquels on travaille, avec lesquels on vit. Ça peut être sur n'importe quel domaine. Hein. Là, on parle de contrats de travail, mais ça peut être aussi des contrats dans la vie, tout simplement, de partenariat, dans la vie quotidienne, de voisinage, par exemple, aussi. Je fais un accord avec mon voisin pour que, par exemple, il s'engage à ne pas faire de bruit la nuit, ou etc. Bah là, quand il ne respecte pas, et il n'y a pas la loyauté de l'engagement auquel il s'est engagé, eh bien, il y a trahison, donc il y a effectivement l'amana qui n'est pas respecté, l'amana qui est le dépôt. Le prophète sallam était surnommé par excellence l'homme digne de confiance, à qui on accordait facilement des contrats, des accords. Tu sais que le prophète sallam, avant l'avènement de l'islam, déjà était le dépositaire des richesses des Mécois. C'est-à-dire qu'on lui ramenait chez lui leurs biens pour qu'ils puissent voyager. Il savait que s'il partait loin, etc., qu'il revenait, il savait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était l'un des rares personnages de la Mecque qui allait rendre exactement le bien qui lui avait été confié sans diminution de rien du tout. Et il était ce qu'on appelle as-sadiqul amin, le sincère, le véridique, celui qui ne mentait jamais et qui était digne de confiance, à qui on accordait facilement l'amana, c'est-à-dire le dépôt. Il était le dépositaire digne de confiance de la part des Mécois. Même au moment où il était condamné à mort, complot contre lui, on doit le tuer, une quarantaine de soldats et d'hommes, des assassins, viennent le tuer, eh bien, malgré cela, les commanditaires de son meurtre, ils refusent de leur voler leur argent. Il part à la Médine faire la hijra, c'est juste un peu avant l'émigration. Il aurait pu prendre avec lui dans son chameau les richesses, l'or, etc. Non, il laisse derrière lui son compagnon Ali ibn Abi Talib pour qu'il restitue à ses commanditaires, à ses assassins, leur bien. Ils disent pas, voilà, moi je vous ai volé, je pars avec votre argent. Même dans ce cas, dans ce genre de situation, alors qu'on se ferait volontiers le plaisir de voler l'argent des gens. Si demain vous savez que des gens veulent vous tuer, il y a des meurtriers qui veulent vous tuer, que vous avez leur argent, est-ce que vous allez leur rendre? Il y en a pas beaucoup qui va rendre l'argent de leur meurtrier. Eh bien non, malgré tout, le prophète rendait l'argent, restituait les dépôts et ensuite il est parti la tête haute.
Quelles sont les conséquences pour celui qui est déloyal?
Eh bien d'abord, c'était comme je le disais tout à l'heure, un signe d'hypocrisie. Et le khiana est considéré comme un péché, un grand péché.
C'est un grand péché.
Ouais. C'est un grand péché. Le prophète dit que c'est une des caractéristiques de l'hypocrisie et qu'elle est contraire à celle des prophètes. Hein. Un jour, Abu Sufyan, tu sais, le chef des Mécois qui était l'ennemi du prophète, est interrogé par Héraclius, l'empereur des Romains. Et il dit, est-ce que cet homme-là qui est venu prétendre avoir une mission divine, est-ce que c'est quelqu'un qui trahit? Il dit, وَهَلْ يَغْدَرْ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ. Abu Sufyan a répondu, لَا قَالَ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَغْدَرُونَ. Héraclius dira, en effet, on ne connaît pas de prophètes qui étaient des personnages qui trahissaient leur engagement. Donc c'est essentiel d'abord pour le vivre ensemble et bien entendu pour éviter le courroux d'Allah Azza wa Jal, que le jour de la résurrection et tu sois ressuscité comme étant un traître et forcément tu subisses la colère divine et donc le châtiment divin. Et donc il est très important d'être un homme loyal et de faire le maximum dans la mesure du possible, je dis bien.
Alors Imam Abdelali Mamoun, chaque semaine, vous allez évoquer pour nous un moment de la vie du prophète. Et c'est son enfance qu'on va évoquer dans un instant dans l'Islam au présent. Je vous rappelle que l'Islam au présent, c'est de 10h à 11h tous les samedis. Ensuite, c'est Maître Serhan qui est avec nous pour C'est tout droit. Inch'Allah, 11h oui. Midi, restez avec nous.
L'Islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'Islam au présent, avec Philippe Robichon.
Voilà, je vous rappelle que vous pouvez intervenir et poser des questions à l'imam Abdelali au 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard de l'Islam au présent, 01 53 48 3000. Premier épisode de cette série qui va nous accompagner toute l'année, Imam Abdelali, et chaque samedi, eh bien, vous allez nous raconter un moment de la vie du prophète. Je vous disais tout à l'heure que c'est dans son enfance que nous allons partir ce matin.
Alors oui, effectivement, contrairement au quotidien des enfants que l'on peut avoir aujourd'hui, le prophète n'a pas eu la chance d'être scolarisé. Donc il n'a pas pu aller apprendre ni l'écriture, ni la lecture, ni avoir une enfance, une scolarité comme on peut avoir aujourd'hui depuis déjà plusieurs siècles hein, que l'école existe. À son époque, au 7e siècle, l'école n'existait pas. Je dirais même au 6e siècle, puisque quand on parle de l'enfance du prophète, on est entre l'an 570, la 71 de l'année de sa naissance, jusqu'à aller 591. L'année où est-ce qu'il va participer à cette bataille qu'on appelle Harb al-Fijar entre les Mécois et les habitants de Qais Island, c'est-à-dire qu'on surnommait Moulouk al-Arab, les rois des Arabes du centre de l'Arabie. À partir de Taïf et derrière Hawazin, Ratafan, Assad, etc. C'est en 591 que va avoir lieu cette bataille et il aura 20 ans à ce moment-là. Mais avant ses 20 ans, hein, c'est très important de savoir ce qui se passe, le prophète va d'abord grandir chez une nourrice qui s'appelle Halima Saadia, justement, qui habite dans ces territoires que le prophète va combattre avec Quraysh.
C'est la première nourrice, Halima?
Non, c'est pas la première, puisque d'abord, avant d'être envoyé avec Halima Saadia, pendant 4 mois, c'est Thuwayba, une servante de Abu Lahab, l'oncle du prophète, qui sera plus tard son ennemi, qui sera sa nourrice pendant 4 mois. Parce qu'elle est elle-même, elle vient de donner naissance à un enfant. Et une femme, tu sais bien, elle ne peut pas donner le sein à un bébé autre que le sien si elle n'en a pas déjà elle-même à elle. Donc c'est parmi ces femmes qui ont donné naissance à un enfant que le prophète va être confié. Et c'est Thuwayba, donc cette femme-là, qui va l'allaiter pendant 4 mois. Ensuite vont venir les Mourdéat, c'est-à-dire les nourrices. Elles vont venir des Bani Saad, qui sont une tribu que je rappelle des Qais, les fameux tribus du centre de l'Arabie, les rois des Arabes, qui sont les... Après, qui vont devenir les ennemis des Quraysh, des habitants de la Mecque. Donc le prophète va partir avec Halima Saadia. Déjà, qui va être obligé de le prendre parce qu'il est le tout dernier, orphelin. Donc, alors que bon, les autres Mourdéat s'assurent de recevoir les enfants qui ont des parents qui sont riches, qui ont des capacités à financer cette prise en charge. Mais Halima, voyant qu'il ne reste plus que Mohammed Sallam, elle va accepter de le prendre. Mais ça va être une chance extraordinaire pour elle, parce qu'à peine arrivée dans son village, les Bani Saad, dans la tribu des Bani Saad, tout devient verdoyant, tout devient coloré, tout devient, les arbres donnent des fleurs et des fruits, le sol est tout couvert de verdure, alors que tous les endroits ailleurs restent secs et désertiques. C'est ça qui est extraordinaire. Les animaux qui vivaient, puisqu'autour, comme je disais, le prophète va jouer un rôle important en tant que petit berger. Il va commencer son enfance comme berger. Donc on va lui confier des moutons, des chèvres, des brebis, etc. Donc ces brebis vont commencer à avoir des mamelons qui gonflent du fait de la nourriture abondante, et donc vont fournir du lait abondamment à la maman, à la mère de lait du prophète, donc Ummuhu min ar-Rada', Halima Saadia, qui va être surprise de cette situation extraordinaire. Elle va dire, cet enfant, il m'a amené la bénédiction, il m'a amené la richesse et l'abondance sans que je n'ai rien à faire. Donc elle va être particulièrement contente de prendre en charge, et les autres vont même le jalouser, les autres nourrices. Donc elle va le garder pendant 2 ans. Après 2 ans, normalement, les nourrices restituent les enfants à leur mère, puisqu'ils sont sevrés. Les enfants sont sevrés.
C'est 24 mois, oui, c'est ça. Donc,
c'est 2 ans. Voilà, 2 ans. Au bout de 2 ans, l'enfant sevré est restitué à sa mère. Sauf que Halima va dire à la mère, donc Amina bint Wahb, la mère du prophète, est-ce que tu acceptes de me le laisser encore pendant quelques temps, car cet enfant est une vraie bénédiction. Je suis très heureuse de l'avoir avec moi, et c'est extraordinaire ce qui se passe. Et donc elle va le garder. Et là, le prophète va encore, il va jouer un petit peu le rôle, comme je disais, de berger, jusqu'à un moment donné, quand il a 4 ans, il va sortir avec son frère de lait, mais qui est aussi son oncle, Hamza ibn Abdel Muttalib, vous savez, le fameux grand courageux, mais qui est un enfant de son âge, pratiquement. Il va partir avec lui dans le désert, et avec les moutons et avec les chèvres et tout ça. Et là, il y a des hommes qui arrivent du ciel, et qui attrape Mohammed, qui le pose par terre, qui l'ouvre la poitrine, sallallahu alayhi wa sallam, et enlève une goutte noire de son cœur, et il place à la place une perle brillante à la place dans son cœur, et en posant leurs mains, la poitrine se referme miraculeusement comme elle s'est ouverte. Et Hamza, qui va être effrayé de voir ce, il va penser que ce sont des barbares qui ont mutilé leur frère, son frère. Il va fuir, il va crier au secours, au secours, au secours. Mohammed est en danger, Mohammed est en danger. Et là, Halima va dire, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a des hommes, ils sont venus, ils ont ouvert la poitrine de Mohammed, etc. Il va être paniqué. Halima Saadi elle-même va être paniquée. Elle voit arriver son fils tranquillement, sereinement, calme, tout va bien. Mohammed Sallam, il dit, qu'est-ce qui se passe? Non, rien, simplement, il y a des hommes, ils sont venus, ils m'ont touché là au niveau de la poitrine, je sais pas ce qui se passe. Et puis voilà. Et là, Halima va avoir peur. Le prophète a 4 ans. Il dira, non, je peux pas le garder là, j'ai peur pour lui. Elle va le rendre à sa mère. C'est là où est-ce que le prophète revient à la Mecque, et il quitte la région de Qais Aylan, du centre de l'Arabie, Mantiqat Hawazin, Mantiqat Bani Saad, Mantiqat ce qu'on appelle Qais Aylan, de la grande tribu des Modariyin, qu'on appelle les Qais Aylan, qui sont les cousins du prophète, et les cousins très éloignés, bien sûr, puisque le prophète est un Kinani, qui est le cousin des Qais. Voilà, en comparaison, c'est Qais et Kinana, les habitants de la Mecque, Quraysh, comme on dit, eh bien, son cousin. Donc leur ancêtre commun, il s'appelle Mudar. Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Et Adnan est descendant d'Ismaïl, fils d'Ibrahim. Donc, on dit que ces deux tribus de Mudariya, ce sont des Arabes arabisés, Musta'ariba. Ce ne sont pas des vrais Arabes comme ceux qui viennent du Yémen, qu'eux, on les appelle les Arabes Ariba, c'est-à-dire les Arabes de souche. Le prophète n'est pas un Arabe de souche, il est originaire d'Assyrie, de Ibrahim alayhi salam, qui était un Assyrien de ce qu'on appelle l'ancien empire avant Babylone, avant l'avènement de Babylone, qui est la région de l'Irak. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est restitué à la Mecque et là il va enfin pouvoir profiter de sa mère. Combien de temps? 2 ans seulement, Philippe. De 4 ans à 6 ans. Pendant 2 ans, il va profiter de sa mère. Et là encore, il va travailler comme berger, il va continuer à voilà, israhil al-ghanam et tout ça. Et pendant 2 ans, il va rester avec sa mère jusqu'à l'âge de 6 ans. À 6 ans, quand il a 6 ans, sa mère meurt elle aussi, alors qu'elle est partie en voyage à Médine pour aller rendre visite à la tombe de son mari Abdullah ibn Abdul Muttalib, son mari qu'elle pleure depuis longtemps puisque son mari est mort avant la naissance du prophète alayhi salam, Abdullah, le père du prophète. Et donc c'est là-bas qu'elle meurt alors que le prophète est avec elle. Et avec elle, il y avait une autre femme qui s'appelait Umm Ayman qui va être sa comment on pourrait dire sa babysitter, hein, on peut appeler ça comme ça, celle qui l'hadena, comme on dit, celle qui va prendre en charge le prophète pour le ramener à la Mecque, de Médine jusqu'à la Mecque. Bon, bien sûr, elle est encadrée par des voyageurs, etc. Mais c'est Umm Ayman, hadena de Rasoul Allah, qui va ramener le prophète de Médine jusqu'à Mecca. Il y a 400 km, hein, il faut le savoir, même plus, un peu plus que ça, entre la Mecque et Médine. Entre Médine et la Mecque. Donc le prophète revient et c'est son grand-père Abdul Muttalib qui prend en charge le prophète alayhi salam. Alors donc lui il va l'aduler, il va le chouchouter, il va l'apprécier énormément, à tel point que Abdul Muttalib, qui est le seigneur de sa tribu, la tribu des Bani Hashim, qui est le nouveau gardien de la Mecque, le gardien du sanctuaire, il vient de découvrir Zamzam, alors qu'il avait été enfoui depuis des siècles et des siècles, personne n'avait redécouvert l'emplacement où se trouvait Zamzam.
Mais c'est pas Sarah qui a découvert Zamzam?
Avant. Non, avant. C'est pas Sarah, c'est Hajar.
Hajar, pardon.
Hajar. Ouais, Hajar, à l'époque de Hajar, en effet, mais là on parle de 3000 ans avant Jésus-Christ. Moi je te parle de 600 ans après.
Et pendant tout ce temps, la source...
La source est tarie, on ne sait pas où elle est.
D'accord.
Et c'est dans son rêve, dans son songe, qu'un ange va lui dire, voilà, elle se trouve à tel endroit, viens gratter à cet endroit-là, il va creuser sur plusieurs mètres, et après l'eau va jaillir du sol, et c'est là que va réapparaître l'eau de Zamzam. Mais pendant plusieurs siècles, l'eau va tarir, tout simplement parce que ce ne sont pas les Banu Hashim qui sont les gardiens de la Mecque à ce moment-là. C'était les Khuza'a, c'est-à-dire une tribu qui avait réussi à battre les Jurhum, qui sont les habitants de la Mecque, fondateurs de la Mecque, avec Ismaïl alayhi salam, je parle de 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc cette tribu des Jurhum va être chassée par les Khuza'a, qui sont des Yéménites eux aussi, et les Khuza'a eux aussi vont garder 300 ans le sanctuaire de la Mecque, la Kaaba, ceux qui vont la conserver, et ensuite 300 ans après, après qu'il la garde, eh bien, Qusay, donc Qusay, l'ancêtre du prophète, le prophète s'appelle Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abd Manaf, fils de Qusay, voilà. Donc ce Qusay-là va être le gendre du chef de la tribu des Khuza'a. Et alors qu'il est en train de festoyer là, un soir, ils sont tous les deux sous, durant surtout le chef des Khuza'a, qui est le gardien du sanctuaire de la Mecque. Il est ivre. Et là, comment ça s'appelle, Qusay détient dans sa main une jarra, comme on disait, une sorte de cruche où il y a du vin. Et là, il lui dit, tu veux de mon vin? Il lui dit, oui, donne-moi de ton vin. Il lui dit, mais combien tu paierais pour cette jarre? Il lui dit, je te donnerai les clés de la Kaaba. Je te donne les clés de la Kaaba. Je te donnerai les fonctions de nouveau gardien de la Kaaba. Il a dit, on est d'accord, tu vois, là, il y a la loyauté des Arabes. Il lui dit, tiens la cruche. Et il lui donne la cruche de vin, et en contrepartie, il lui donne la clé de la Kaaba. Et donc, à partir de là, Qusay, l'ancêtre du prophète, donc des descendants de Kinana, redevient gardien de la Mecque. Et c'est à partir de Qusay, son fils Abd Manaf, de son fils Hashim, de son fils Abd al-Muttalib, que la Mecque deviendra sous la tutelle des Hashimites.
Bien, et chaque semaine, Imam Abdelali, vous évoquerez pour nous un épisode de la vie du prophète. 01 53 48 3000, vous pouvez aussi, vous le savez, interroger et poser vos questions à l'imam Abdelali au standard de l'islam au présent, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Et l'imam Abdelali Mamoun qui est avec nous tous les samedis, 1h pour parler d'islam, 10h, 11h. Le samedi, on a Sofiane qui est avec nous au standard, au 01 53 48 3000. Bienvenue Sofiane.
Allô.
Bonjour Sofiane.
Bonjour Philippe, cher, salam alaikum.
Malikoum salam.
Salam wa rahmatullah.
Bonjour, j'espère que vous allez bien.
Oh, alhamdulillah, khouya, marhaban.
Alhamdulillah. Cher, j'aurais une question, voilà. Je dois subir une grosse opération dans le courant de la semaine.
Allah yashafik.
Allah yassalmak al mu'minin jami'a. Voilà. Et je suis un peu inquiet plus par rapport aux, comment dirais-je, aux prières que je ne pourrais pas exercer plutôt qu'à à l'intervention en elle-même. C'est-à-dire que je vais être donc anesthésié et je serai en anesthésie de 1h de l'après-midi jusqu'à environ 21h. Le soir, et donc je perds toutes les prières, donc qu'est-ce que je dois faire dans des cas comme ça, Yachir ?
Ben rien du tout, quand tu te réveilles, tu pries tes prières avec les yeux dans la mesure du possible, tu fais avec tes paupières, tu te mets en lien avec Allah Azzawajal et tu fais voilà, dhor, voilà, Allahu Akbar dans ta tête et puis tu récites comme tu peux avec ta bouche si c'est possible, selon les moyens que tu as, sinon tu attends d'être en meilleure forme pour les rattraper quand tu rentres à la maison, mais il n'y a aucun problème, tu n'auras pas commis de faute vis-à-vis d'Allah Azzawajal, t'inquiète.
D'accord. Juste encore une dernière petite question concernant donc le lodo, puisque je vais être quand même alité pendant déjà 3 jours d'office en réa, et donc au niveau du lodo, comment que ça se passe?
Alors ça dépend, tes capacités. Est-ce que tu es en mesure d'utiliser au moins un caillou de
tissu? Tayammum, je vais essayer.
Mais allez, je termine ma phrase après.
Samahni.
Bismillah. Vas-y, toi.
Oui, donc je disais, oui, concernant le tayammum, sans doute pas le premier jour, peut-être le deuxième, voire le troisième jour, éventuellement, oui.
Mmh, d'accord. Donc je répète. Donc, dans la mesure du possible, si tu peux utiliser le caillou pour faire le tayammum, et je rappelle aux auditeurs ce que c'est que le tayammum, et auditrices, bien sûr, le tayammum consiste à une ablution sèche, c'est-à-dire sans eau, qui consiste à toucher un caillou à un objet naturel. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas du bois ou un mur de béton, un truc comme ça. Ça, c'est pas naturel. Un caillou est naturel. Du sable est naturel. Je sais pas moi. De la terre est naturel. Donc, une boule de terre, par exemple, ou un caillou. Un caillou, parfois, c'est un galet. Hein, souvent, les gens utilisent des cailloux ronds. Donc, vous posez la main dessus légèrement et vous essuyez les mains. Ensuite, vous passez vos mains sur le visage et sur vos mains jusqu'au poignet. Voilà, c'est ça, c'est un acte symbolique. Et derrière, vous commencez votre prière, vous pouvez faire vos prières, toutes les prières qui vous manquent, Dhuhr, l'Asr, tant qu'on a les moyens de faire avec les yeux, sinon avec, si on peut avec sa tête, sinon avec, on peut s'asseoir et s'incliner avec son corps, selon ses capacités physiques.
Voilà, Sofiane, merci en tout cas pour votre question, et puis on pensera bien à vous cette semaine.
الله يشافيك خويا ربي يسهل عليك et que ça se passe bien pour toi et ردك سالما غانما الى اهلك يا رب. Allah te renvoie à ta famille en bonne santé.
Alors, Imam Abdelali, chaque semaine des questions d'enfants auxquelles vous tenterez de répondre. Là, j'ai reçu une question d'un enfant qui s'appelle Abdelali du Val-de-Marne.
Abdelali du Val-de-Marne.
6 ans. Non, c'est non. C'est pas vous, 6 ans. Non, Abdelali du Val-de-Marne, 6 ans.
Cette question là.
La question d'Abdelali du Val-de-Marne, 6 ans. Pour être un bon musulman, doit-on haïr le cochon ?
Bien sûr que non. Il n'est pas question de haïr ce pauvre animal. Qu'est-ce qu'il a à voir dans l'histoire ? Ce qui est interdit, c'est de le consommer, comme on n'a pas le droit de consommer du chien, du chat, des félins, des rapaces. Tous les animaux carnivores et omnivores sont proscrits à la consommation. Mais pourquoi le haïr, ce pauvre animal ? Et il y en a, dès qu'ils voient un cochon, ah, berk, ah, comme ça, ils commencent à réagir. C'est un animal qui a sa manière de vivre. Qui nettoie beaucoup notre environnement. Il est dans la chaîne alimentaire et il est positionné avec le sanglier parmi les animaux qui sont dans la chaîne alimentaire, qui nourrissent d'autres animaux, etc. Moi, mon père, quand il était jeune, chassait le sanglier, non pas pour le consommer, mais pour donner à manger aux chiens. Et parce que ce sont des animaux nuisibles qui détruisaient les champs et qui faisaient beaucoup de dégâts dans les...
Le halouf, c'est le sanglier d'ailleurs.
Oui, le mot halouf, qui est le terme en arabe littéraire pour dire le sanglier, c'est halouf, qui a été extrapolé pour parler du cochon.
Qui est khenzir.
Qui est normalement le khenzir, qui est lui interdit cochon, dans le Coran. Ouais. Mais le khenzir et le halouf. Le halouf est un khenzir sauvage, c'est-à-dire est un cochon sauvage. L'un est élevé. Parce qu'il fait l'objet d'un élevage pour être consommé, et l'autre n'est pas élevé, il vit dans la nature, mais les deux sont de la même race, c'est la race porcine.
Mais comment vous expliquez cette transmission de la haine du cochon ?
Tout simplement parce que l'on pense, comme on n'a pas le droit de manger le cochon, eh bien, on doit, dès qu'on voit un cochon, dire « Ah, se sauver, courir, détester, je sais pas, il y a une... » Ou voilà. Ou quand on voit dans une assiette quelqu'un qui mange du jambon ou des saucisses, etc. Mais c'est sa religion, laisse-le tranquille. Lui, il a envie de manger du cochon, il est à côté de toi, à table. « Ah oui, dis-moi, je dois pas m'asseoir à côté de quelqu'un qui mange du cochon. » Et pourquoi ? Lui, tu es pas en train de manger dans son assiette. Toi, tu manges dans la tienne, lui, il mange dans la sienne. Toi, tu manges ton truc halal, lui, il mange son truc qui est pas halal. Pourquoi je pourrais pas m'asseoir à côté de lui ? Une fois, j'ai même eu un cas, là où je travaillais à l'époque avant, c'est qu'il y avait dans le vestiaire un four micro-ondes où des musulmans et des portugais notamment et d'autres mélangés utilisaient ce même four micro-ondes pour chauffer leur gamelle. Et celui du salarié non musulman, eh bien après qu'il ait fait chauffer son truc, ça empestait les gros jambons, les grosses saucisses, je sais pas quoi là, de cochon. Et les musulmans ne voulaient pas utiliser le four micro-ondes parce qu'ils pensaient qu'il était souillé, qu'il avait été impur,
cochonisé
par par les vapeurs de cochon. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de cochonisation des vapeurs. La vapeur, c'est pas illicite. Si même je respire le plat où il y a du cochon dedans, ce n'est pas haram, puisque c'est consommer la chair qui est haram. Pas respirer l'air, pas toucher un cochon, pas manipuler un animal, le couper ou le servir à quelqu'un. Si à partir du moment où celui qui va le manger, il a le droit de le consommer dans sa religion, si moi je le sers, il est où le problème ?
C'est psychologique.
Voilà, donc c'est complètement absurde. Il faut arrêter d'haïr la créature d'Allah, les créatures d'Allah. Le cochon est une créature parmi les créatures. Un jour, devant Jésus-Christ, justement, on raconte qu'un cochon est passé devant lui. Les gens ont commencé à avoir de la réticence, ont commencé à reculer et à insulter le cochon. Jésus leur a interdit, mais pourquoi vous insultez la créature de Dieu ? Et il lui a dit, salam alaykoum. Il lui a dit que la paix soit sur toi. Et donc, voilà, ça montre bien que il est complètement stupide que d'haïr un animal, une créature que Dieu a créée. C'est bête.
Alors, ça fait pas partie de la foi. Il y a une question qui revient souvent, Imam Abdelali, c'est est-ce qu'on a le droit, si on est musulman, de vendre du cochon ?
Alors, on considère que tous les animaux qui sont interdits à la consommation sont souillés, sont impurs. Donc, est-ce qu'on a le droit de vendre des najasa, c'est-à-dire des matières impures ? La réponse est non. C'est-à-dire qu'en islam,
pourtant,
on n'a pas le droit.
Pourtant, on ne les consomme pas.
Oui, j'ai bien compris. Mais le fait de consommer l'argent, le gain de cette nourriture, qui est interdit par Dieu, eh bien, forcément, tu contribues, tu es complice de sa consommation. Alors,
moi,
en rentrant
dans
le
salarié, je ne vous parle pas du propriétaire.
Tous. Ouais. Le producteur qui va élever le cochon. Dans l'usine d'abattage, l'abattoir, etc., qui va découper, l'autre qui va le conditionner, l'autre qui va le mettre en rayon, l'autre qui va le vendre, l'autre qui va tout cela, tous ces salariés et le patron propriétaire jusqu'à l'acheteur qui va lui le consommer, sont tous dans le péché à partir du moment où ils consomment et contribuent à faire consommer du cochon, qui est, je le répète, impur à la consommation. Mais je répète que pour le musulman, c'est un péché, mais pour le mécréant, ou plutôt pour le non-musulman, lui n'est pas concerné. Il n'est pas concerné par les préceptes de l'islam, il n'est pas assujetti aux règles du Coran et de la Sunna, et notamment à ses furu', puisqu'il n'a pas les usul, il n'a pas les bases de la foi. Pourquoi lui imposer les détails de la religion et les règles alimentaires ? On n'a pas imposé des règles alimentaires à quelqu'un qui n'a même pas à la base les fondements de la foi. Donc la première chose, c'est d'abord avoir les fondements, et à partir de là, on dira à la personne qui a la foi et qui se dit musulman, tu n'as pas le droit de consommer du cochon, ou tu n'as pas le droit de faire ci ou faire ça. Mais voilà, il faut faire les choses dans les règles. On va reprocher à des non-musulmans de consommer du cochon alors qu'ils ne sont même pas musulmans. Il n'est pas musulman, il ne croit pas à ta religion, il ne croit pas à ton Coran, il ne croit pas à ton prophète. Pourquoi tu lui parles de cochon ? Donc arrêtez avec votre délire de vouloir en plus alimenter cette islamophobie, parce que vous voulez imposer votre religion, vous voulez imposer vos convictions, ce que vous imposez à vous-même, vous voulez l'imposer aux autres. Et ça, c'est inadmissible, puisque le Coran nous l'interdit. Il dit, la ikraha fid din, non contrainte en religion. Innama anta mudhakkir, tu n'es qu'un rappel. Lesta alayhim bimusaytir, en aucun cas tu seras un dominateur. afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin, vas-tu contraindre les gens afin qu'ils deviennent croyants? Innaka la tahdi man ahbab, tu ne guideras pas qui tu aimes, walakin Allah yahdi man yasha, et ainsi de suite, énormément de versets, de hadiths qui vont dans l'interdiction d'imposer la religion aux autres. Toi, tu t'imposes à toi-même, mais tu dois laisser les gens tranquilles. Et c'est comme ça qu'on va promouvoir le vivre ensemble, qu'on va le faire société, la tolérance. Chacun rendra des comptes à Dieu, mais en ce moment, sur Terre, chacun fait ce qu'il veut. Chacun doit garder sa liberté de conscience, sa liberté religieuse. Et le musulman doit être garant que chacun puisse la garder, cette liberté, qu'il soit musulman ou non. Voilà.
De toute façon, comme on dit, hein, Imam Abdelali, tout est bon dans le mouton.
Voilà, du museau jusqu'au...
Du mouton.
Jusqu'au...
Bouzoulouf, c'est très très bon. Hein.
Ah, j'aime bien moi bouzoulouf, je mange de temps en temps, c'est bien. Ouais. J'aime bien manger ça à Taïf, on en parlera inchallah de Taïf, peut-être la semaine prochaine. Puisqu'il y a une Umra, justement au mois d'octobre.
Ça c'est du métier. Est-ce que 30 ans de radio, regardez ça c'est de l'enchaînement.
30 ans ? Ah non, pas 30 ans.
Regardez, l'enchaînement. Donc,
voilà, ça s'appelle la transition.
Il y a une Umra bientôt, il m'a
voilà,
dit.
Il y a une Umra. Non. Oui, tout à fait. Le 25 octobre jusqu'au 5 novembre. Du 25 octobre au 5 novembre. Inch'Allah ta'ala, pour ceux qui veulent y aller avec moi. Il y a justement une journée complète à Taïf, où est-ce qu'on va partir de l'aéroport de Taïf. On revient par Taïf vers Istanbul-Médine, avec la Turkish Airlines. Donc c'est un beau voyage en hôtel 5 étoiles. Ceux qui veulent participer avec moi, je vais laisser mes coordonnées, Philippe.
Ah ben, s'il vous plaît, Imam Abdelali.
Voilà, 06 29 25 35 00, ce numéro là vous pouvez l'utiliser pour m'appeler, pour me poser vos questions. 06 29 25 35 00. On reste sur cette formule, Philippe. Une vertu, un récit du prophète et une question d'un enfant. J'aime bien cette
formule. Comme vous voulez, Imam Abdelali.
Cette formule.
J'aime bien quand vous êtes content.
Ouais.
Rappelez votre numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre transistor. Donc
06 29 25 35 00. 06
donc, à 29. Partir donc de. C'est pour les vacances d'ailleurs.
Les vacances, c'est les vacances de la Toussaint. Du 25 octobre au 5 novembre. Donc une Umra, Medina, Mecca et Taïf. Taïf, qui est une ville de la région de Qais Aylan, puisque ce sont les Bani Thaqif qui étaient là-bas et qui étaient des hommes très cruels, qui ont accueilli très mal le prophète. Et justement, on va raconter les différentes étapes où le prophète a séjourné là-bas, quelques temps avant de pouvoir, alhamdoulilah, revenir à la Mecque sain et sauf.
Bon, dans un instant, il sera avec vous, vous l'attendez avec beaucoup d'impatience, c'est Maître Serhan. Qui sera là pour, c'est tout droit, hein. Si vous avez des questions juridiques, vous pouvez appeler Maître Serhan.
Mais si on veut tourner, non, on peut pas, Philippe.
Non, si vous voulez tourner à gauche, c'est pas possible.
Ah bon, moi je suis de gauche pourtant, Philippe.
Oh, je pense quand ça vous arrange.
Ah,
ça dépend du parti du maire. 01 53 48 30. Vous êtes de gauche, et Imam Abdelali.
Un petit peu. Bah oui, quand je vois ce qui se passe à droite, là, c'est.
Bon, mais voilà, les imams, ça fait pas de politique.
Ils font pas de politique, mais ils ont leurs propres convictions en tant que citoyens. Ils ont aussi une étiquette personnelle qui consiste à dire voilà, moi aujourd'hui, ce qui se passe, que ce que je vois aujourd'hui, les actes islamophobes, qui. Aujourd'hui systémique, quand on voit par exemple un jeune candidat à la police qui est refusé, recalé à cause d'une trace sur son front, pour moi c'est tout simplement scandaleux. Hein, que il y a 100 ans, les goums, les zouaves, les tirailleurs qui venaient avec leur gandoura, qui venaient avec leur abaya, qui venaient avec leur burnous, qui venaient avec leur turban, hein, ça ne dérangeait personne quand ils venaient ici pour défendre et libérer la France des nazis. Ça n'a dérangé personne. Aujourd'hui, rien qu'une petite trace sur le front, une tabac, eh bien, l'administration, la préfecture va s'opposer à l'intégration d'un jeune Français de confession musulmane parce que on appellera ça un signe religieux. C'est tout simplement honteux et lamentable. Voilà.
Enfin, là, à gauche, à droite, c'est les mêmes. Hein, j'ai envie de vous dire.
Non, je ne crois pas qu'à gauche, ils auraient fait ça. Ils n'auraient pas empêché un gars qui a une trace sur le front de rentrer, d'intégrer la police. Maintenant, le problème, c'est que la police elle-même, elle est très à droite, voire même plus qu'à droite.
Allez, Maître Serhan, lui, il est au centre. Il sera avec nous dans un instant et samedi prochain. Oui, il est tout droit, Maître Serhan. Samedi prochain, Imam Abdelali.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.